Rubrique Russie 1917. La révolution au fil des semaines. 26 juillet, 6e congrès du parti bolchevique, le parti de Lénine et Trotsky. Malgré la répression consécutive aux journées de juillet, malgré l'absence de Lénine et l'emprisonnement de plusieurs dirigeants dont Trotsky, le congrès du parti bolchevique eut lieu à la date prévue. C'est une date importante dans l'histoire du mouvement révolutionnaire russe. En effet, si sur le plan du programme, le Congrès se borna, si l'on peut dire, à entériner les thèses d'avril de Lénine, il marqua, en leur absence, l'accord désormais complet entre Lénine et Trotsky. C'est alors, et pour toute la durée de la période révolutionnaire, que se forma, entre guillemets, le parti de Lénine et Trotsky. Ce dernier écrit dans son Histoire de la Révolution russe « Le 26 juillet s'ouvrit le Congrès d'unification » En réalité, le 6e congrès du parti bolchevique. Le 26 juillet s'ouvrit le congrès d'unification. En réalité, le 6e congrès du parti bolchevique, qui se déroula à 2000 également, se dissimulant alternativement dans deux quartiers ouvriers. 175 délégués. Dans ce nombre, 157 avec voix délibérative, représentant 112 organisations, groupant 176 750 membres. À Petrograd, l'on comptait 41 000 membres, 36 000 dans l'organisation bolcheviste, 4 000 chez les interdistricts, l'organisation de Trotsky, environ 1000 dans l'organisation militaire. Dans la région industrielle de Moscou, le parti comptait 42 000 membres, dans l'Oural 25 000, dans le bassin du Donetsk environ 15 000. Au Caucase, il existait de grandes organisations bolchevistes à Bakou, à Grozny, et à Tiflis. Les deux premières se composaient presque exclusivement d'ouvriers, à Tiflis prédominaient les soldats. À ce congrès, disait plus tard dans ses souvenirs Pianitsky, un des secrétaires actuels de l'Internationale communiste, n'assistèrent ni Lénine, ni Trotsky, ni Zinoviev, ni Kamenev. Bien que la question du programme du parti eût été retirée de l'ordre du jour, le congrès se déroula sans les leaders, avec activité et fort bien. À la base des travaux se placèrent les thèses de Lénine. Il y eut comme rapporteurs Boukharine et Staline. Le rapport de Staline ne mesure pas trop mal la distance parcourue par le rapporteur lui-même avec tous les cadres du parti en 4 mois depuis l'arrivée de Lénine. Théoriquement peu sûr de lui, mais résolu politiquement, Staline tente d'énumérer les traits marquants qui déterminent le caractère profond de la révolution socialiste ouvrière. L'unanimité du Congrès, comparativement à la conférence d'avril, saute aux yeux. Au sujet des élections du comité central, le procès-verbal du Congrès communique « On lit les noms des 4 membres du comité central qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Lénine, 133 voix sur 134, Zinoviev, 132, Kamenev, 131, Trotsky, 131. En outre, sont élus au comité central Neugin, Kolontai, Staline, Sverdlov, Rykov, Boukharine, Artem, Yoffe, Ouritsky, Miliutin, Lomov. Il faut remarquer cette composition du comité central. Sous sa direction s'accomplira l'insurrection d'octobre. Sverdlov, qui, pratiquement, avait organisé le congrès, disait dans son rapport « Trotsky, dès avant le congrès, est entré dans la rédaction de notre organe, mais son incarcération l'a empêché d'y participer effectivement. C'est seulement au congrès de juillet que Trotsky entra formellement dans le parti bolchevique. Le bilan des années de dissentiment et de lutte fractionnelle fut clos. Trotsky vint à Lénine comme à un maître dont il avait compris la force et l'importance plus tard que bien d'autres, mais peut-être plus complètement. Déjà, le seul nombre des voix données à Trotsky quand il fut élu au comité central montra que personne dans le milieu bolchevique ne le considérait, au moment même de son entrée dans le parti, comme un intrus. Invisiblement présent au Congrès, Lénine insufflait dans les travaux de l'Assemblée l'esprit de responsabilité et d'audace. Le créateur et l'éducateur du parti ne tolérait pas plus la négligence dans la théorie que dans la politique. Il savait qu'une formule économique inexacte, de même qu'une observation politique inattentive, prennent de cruelles revanches à l'heure de l'action. Défendant son procédé d'attention chicanière à l'égard de chaque texte du parti, même d'un texte d'importance secondaire, Lénine répéta plus d'une fois « Ce ne sont pas des vétilles, il faut de la précision. Notre agitateur apprendra cela par cœur et ne sera pas dérouté. Notre parti est bon, ajoutait-il, ayant en vue précisément cette étude sérieuse, exigeante, de l'agitateur Durand au sujet de ce qu'il fallait dire et de la façon de le dire. »